France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Faire de la radio comme un gros plan photographique. Simone Dweck définissait ainsi les productions radiophoniques de Pierre Descargues. L'aube du regard, ateliers et artistes, parler de l'art à la radio, telles furent les premières rencontres avec Pierre Descargues pour la série À Voix Nue, diffusée pour la première fois sur France Culture en avril 2002. Comme chacun sait, À Voix Nue est diffusée du lundi au vendredi sur France Culture, donc 5-3 égale 2. Voici donc les deux derniers volets de cette émission consacrée à Pierre Descargues. Pierre Descargues, décédé le 21 janvier 2012. La peinture se transmet de siècle en siècle et c'est les peintres qui l'ont appris à Pierre Descargues. Pierre Descargues qui conseillait d'aller dans les musées le soir, quand le jour décroît, pour le soleil. Une production Simone Dweck, réalisée par Dominique Costa.
Un jour, peut-être en 1951, peut-être une autre année, vous allez chez Man Ray, dans son atelier. Vous parlez avec lui, puis vous prenez des photos. Un rouleau de 36 poses. Vous racontez qu'il vous demande « Pourquoi ce gaspillage de pellicules ?»« C'est que je ne suis pas professionnel, » répondez-vous. Et vous remarquez que cette réponse a semblé lui plaire. Et le voici donc, Man Ray, sur la photo, qui vous regarde derrière ses grandes lunettes, chemise à carreaux, une main dans la poche de son blouson, peut-être un peu interrogateur. Man Ray, le créateur qui avait tout fait, je vous cite, « mieux que tous les professionnels, mais qui n'avait jamais voulu être professionnel de quoi que ce soit ». Vous ne vouliez rien dire de particulier, Pierre Descargues, sur la photographie, parce que vous n'êtes pas photographe. Pourtant, il y a une masse de négatifs chez vous, des visages, des portraits, des rencontres. Si vous écriviez des articles, l'appareil photo vous accompagnait. Les photos et aquarelles d'Étienne Descargues, votre père, qui n'était ni photographe ni aquarelliste, se sont retrouvées, sans qu'il eût pu s'en douter, dans des musées ou dans des collections de la Bibliothèque nationale. De même, les vôtres, on les a vues dans une galerie, et elles ont aussi été rassemblées par les éditions du Cercle d'Art dans un grand livre. Ces photos, d'ailleurs, vous les avez souvent réalisées avec Catherine Val, et puis on a du mal à démêler qui a fait quoi. Et vous me direz sans doute que c'est fait exprès.
Non, c'est pas exprès, mais on sait pas. Hein. On est là, on appuie sur le bouton, et puis ça marche. Mais je suis content de parler de la photo pour une raison que je vais vous dire. Parce qu'un jour, le sculpteur Étienne Hajdu, qui était un vieux copain, venait souvent collaborer à des colloques de scientifiques. Et particulièrement, je l'ai entendu, à un colloque sur l'hématologie. Qu'est-ce qu'il foutait là? Mais ça l'a passionné, il était passionné. Et là, il a dit une chose comme ça, en fin de communication, sur les vibrions, les choses qui bougent, les cellules sanguines, etc. En fin de communication, il a dit cette chose qui m'a frappé, c'est que, quoi qu'on fasse, il y a quelque chose que on risque de perdre. Quoi qu'on fasse avec l'ordinateur, quoi qu'on fasse avec l'appareil photo, quelque chose va se perdre, c'est ce que invente la main. On va être beaucoup trop confiant dans les machines qui nous disent désormais, nous dirigent. J'ai trouvé ça intéressant. Et la question se posait évidemment pour la photo. La photo, c'est vrai qu'il y a une machine et qu'on appuie sur un bouton et que, dans mon cas, j'étais pas responsable vraiment totalement de ce que je faisais comme photo. Les photographes savent, mais pas moi. Et j'ai été surpris de voir quelquefois du résultat. Et à la fin, après m'être rappelé une phrase de Georges Braque qui disait « on sait jamais où on va », je me suis dit qu'au fond, la création, c'était peut-être encore plus compliqué, et même qu'au centième de seconde, et même plus rapidement, peut-être que quelque chose nous échappait là, échappait au photographe, et qu'en définitive, il prenait des choses que la main n'avait pas faites, bien sûr, la qualité du toucher, du crayon, du burin, du pinceau, bon, ça disparaît, mais quelque chose d'inconscient se met aussi dans l'appareil photo, et au fond, je crois que quand mon rédacteur en chef, il y a 50 ans, il y a plus que ça. On voyait faire des enquêtes en disant, auprès des gens, est-ce que la photographie est un art? Question qui avait déjà un peu, presque un siècle. Eh bien, maintenant, je commence à penser que les gens me disaient, on n'est pas sûr, et je commence à penser que c'est oui. Parce que, cette rapidité d'exécution, eh bien, elle est dans la photo, mais la main y est quand même encore pour quelque chose, ou plutôt l'inconscient. Et je pense à ce moment-là à Brassailles, que j'ai fréquenté assez souvent, que j'aimais bien et qui me tolérait dans ces parages. Brassailles, qui a quand même photographié avant-guerre la nuit de Paris. Alors la nuit de Paris, avec les pellicules de l'époque, c'était pas simple, il y avait peu de sensibilité. Donc il avait un procédé très simple, il disait une Gauloise, c'est quand la nuit est claire. C'est la durée de la cigarette.
La durée de la cigarette.
Une celtique qui s'éteignait sans arrêt. C'est quand la nuit est sombre. Et il faisait des photos comme ça, des gens dans Paris. Alors il y a des photos de loupards terrifiants. Il y a des photos de Léon-Paul Fargue assis sur un banc, des prostituées énormes comme ça dans la rue. Ça il l'a fait. Et puis le jour, il allait photographier les graffitis dans les rues de Paris. Et ça a été vraiment extraordinaire. Si bien que les peintres ont été attentifs à ce que ce photographe pouvait faire. Et je me rappelle que Dubuffet était passionné par ça. Je me rappelle que Picasso voulait absolument sortir avec Brassailles pour lui aussi faire des graffitis à côté des autres, cette espèce de passion qu'il avait, et que le photographe montrait des choses aux gens, aux artistes, que les artistes n'avaient pas vues encore. À ça, ça me paraît utile de rappeler que les photographes aussi sont des créateurs, et que moi, bien sûr, je ne mets pas dans ce côté-là, je suis un presse-bouton tout simple.
Bon, alors, quand même, le presse-bouton que vous étiez a passé pas mal de temps avec son appareil photo.
On en a pris 40 000.
Et alors, il y a des moments où vous dites, j'ose, par exemple, pour Man Ray, vous avait dit, j'ose le photographier. Il y a peut-être des gens qu'on ose, et puis des gens qu'on doit oser.
Vous vous rendez compte, j'avais une bonne mine, moi, avec mon petit truc. C'était absolument... Est-ce qu'il va pas me foutre dehors ? Qu'est-ce qui va se passer ? Non, généralement, les gens sont gentils. Brassailles m'a tout à fait toléré comme photographe, Man Ray aussi. Je n'ai pas compris pourquoi, mais enfin, ils sont pas... Vous voyez, la qualité, c'est qu'ils ne sont pas méprisants. Il ne faut pas être méprisant, c'est très important. Mais quand même, rappelons une chose pour Brassailles, c'est que il était content de faire des photos, d'avoir photographié Picasso, etc. Mais il a eu un besoin tout à fait net, c'était de se souvenir de ce que Picasso lui disait. Donc pour faire un livre, donc pour faire une continuité, ne pas avoir l'instantané, le moment volé au personnage, mais faire une construction logique avec un début, un milieu, une fin. Il avait besoin du cinéma, mais ça a été pour lui, ça a été l'écriture. Il a fait la même chose avec Henry Miller. D'ailleurs, c'est les entretiens avec Miller sont absolument extraordinaires. Donc, c'est pour dire que la photo, c'est très riche, c'est très formidable, mais il y a des gens qui doutent encore, et même le Brassailles doutait encore un peu, puisqu'il a eu besoin de se faire écrivain.
Mais alors, vous, quand vous preniez des photos, c'était un peu des compléments de vos articles, c'est ça?
Oui, parce qu'on n'avait pas de photographe. Voilà, les journaux, on n'avait pas d'argent pour s'en payer. Bon.
Il n'empêche que vous aviez quand même une attitude quand vous preniez ces photos-là. C'était pour être témoin d'un moment, c'était pour... je veux dire, la proximité qu'on peut ressentir quand on photographie quelqu'un ou pas,
généralement, c'était à la fin de l'interview. Je demandais aux gens, vous voulez bien que je vous photographie? Alors, comme on avait parlé un peu ensemble, ils étaient assez détendus, quoi. Ils n'étaient pas inquiets. Ils ont toujours accepté, quoi. C'est comme ça que j'ai photographié tous les gens que j'ai aimés, Tinguely, Paul Bury, Yves Klein, tous ces gens-là que j'ai fréquentés souvent. Ils étaient là, ils voulaient bien, quoi. Ça a été un grand plaisir. Puis en plus, on arrive, on va voir si c'est pas complètement flou. Ben non, par chance, il y en a quelques-unes qui sont bonnes et qu'on peut envoyer au journal. Ça, c'est assez merveilleux, la photo aussi.
Oui, et alors il y a des portraits, et puis il y a aussi des moments où vous avez photographié les artistes pendant qu'ils travaillaient. Ça vous arrivait, ça?
Généralement, ils n'aiment pas ça. Ouais. Ils n'aiment pas ça du tout. Ce qu'on peut faire, ils se prêtent au cinéma, Picasso s'est prêté à la caméra.
Picasso l'a fait,
c'est évident. Mais la photo pendant qu'ils travaillent, ils n'aiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils savent que c'est faux. Et qu'il faudra qu'ils prennent la palette dans la main, qu'ils posent le pinceau sur la toile et que ce sera une blague.
Oui, mais Miro, par exemple. Je crois que vous l'avez.
Ah,
vous n'avez pas
photographié
chez l'imprimeur. Chez l'imprimeur.
Oui, mais ça, il a bien voulu. Oh, j'étais sur la pointe des pieds, Monsieur Miro. Vous voulez bien que vous photographiez pendant que vous faites une gravure? Oui. Il s'en foutait complètement. Il pensait
qu'à sa gravure. Il oubliait votre présence, lui.
Mais il s'en faisait que ça. C'était son problème, c'était sa gravure. Et il l'a faite devant moi. Ça, c'était vraiment extraordinaire parce que j'ai vu naître une gravure et c'est. un accouchement difficile, hein. Mais c'est pas, comme on croit, une création mentale, c'est, comme on disait tout à l'heure, à cause du sculpteur, à propos du sculpteur Étienne Agelu, c'est fait avec la main. C'est-à-dire qu'avec la main, prend l'éponge, fait égoutter une goutte de couleur sur la plaque, et puis l'efface, et puis en met une autre dessus. C'est la main qui crée. Alors l'artiste aussi, il est derrière, bien sûr, il est conscient de ce qu'il fait. Mais quand même, c'est la main qui fait tout, hein. Et ça, c'est une preuve extraordinaire.
Et ça, vous l'avez vu à travers l'appareil photo? Ou
ah bah oui,
tout.
J'ai fait une série, vous avez fait un reportage là-dessus.
C'est
un vrai, mais la chance que Miro veuille bien se laisser photographier. Elles sont pas toutes bonnes, d'ailleurs, il y en a quelques-unes de floues, mais à l'époque, on avait déjà des cellules, alors qu'au début, on n'en avait pas. Et quand j'ai photographié Fernand Léger, j'étais paniqué avec le reflex de mon papa qui m'a prêté ma première photo. J'ai été là, mais qu'est-ce qu'on fait comme ouverture, qu'est-ce qu'on fait comme temps de pose? Il n'y avait pas de cellules. Alors il fallait en faire beaucoup. Alors on faisait toutes les ouvertures et tous les temps de pose. Et à ce moment-là, il y en a bien une de bonne, et c'est vrai. Il y en a toujours une de bonne dans ces cas-là.
Il y en a une de Soulages, par exemple, qui a l'air de gêner, il passe furtif comme ça dans un tableau.
Il sort d'un tableau, ça c'est assez drôle.
Il sort d'un tableau.
Mais ça c'est drôle. Mais ça c'est parce que à l'époque j'avais une cellule, que je savais un peu mieux ce que je faisais, et qu'il y avait ce noir terrible en tableau de Soulages, et puis sa soulouette avec la chemise blanche, et que là je le voyais marcher. Et c'est son pantalon noir s'inscrivait presque dans le rythme du tableau. C'était assez drôle de voir ça. Alors, par chance, j'ai appuyé sur le bouton, et puis c'était là. Alors ça, c'est le miracle de la photo. Pas toujours, hein. Quelquefois, on rate souvent. Mais là, c'est ce que j'avais espéré le voir, et je l'ai vu.
Oui. Et en fait, ce sont des moments aussi que vous aviez envie de fixer, comme
oui,
ça.
Oui, enfin, on a pu aussi photographier des happenings, hein, photographier des choses comme ça. Il y a eu des séances très très drôles. Je me rappelle une séance avec Ben. Ça se passait au Festival de la Libre Expression. C'était dans un théâtre qui a aujourd'hui disparu, je crois, qui était rue Fontaine, en dessous de chez André Breton. Et là, il y a Ben qui a fait son happening. Alors, c'était quoi le happening de Ben? Il prenait une hache de bûcheron avec un manche d'un mètre cinquante, vous voyez, le grand truc. Il se faisait bander les yeux et il se jetait dans la foule en faisant tournoyer la hache. C'était assez terrifiant.
C'était Ben.
Oui, c'était Ben. Évidemment, il y voyait bien. Malgré le bandeau, il a tué personne. Mais quand même, c'était très impressionnant. On a fait des choses comme ça, très drôles. Un livre expression aussi. Catherine a photographié un truc très drôle. C'était l'entrée d'une moto avec un moto dans un théâtre. Vous voyez ça? Ils ont toléré. Et qui était enfourché par une fille nue. Oh! Eh ben, c'était pas scandaleux, parce que le type qui conduisait la moto avait un regard très gentil, très drôle.
Un beau sourire, oui.
Ouais, très, très complice pour la fille qui osait se montrer toute nue et enfourcher la moto. Il y avait des choses comme ça qu'on a pu photographier. Ça, c'était la vie de l'art, c'était pas mal quand même.
Il y a des grandes amitiés dont vous allez nous parler, dont on a des témoins par la photographie, mais quelques photos comme ça en feuilletant ce livre, comme des photos d'écrivains, une photo de Bachelard par exemple, extraordinaire.
Ah, la chance, oui.
Bachelard avec sa belle barbe blanche.
Avec sa belle barbe. C'était un petit HLM, vous savez. Faut bien dire des choses comme c'était. Il avait peu d'argent, puis il n'avait pas envie de s'en dépenser non plus. Un HLM en bas de la montagne Sainte-Geneviève. Parce qu'ils étaient commodes, ils donnaient des cours à la Sorbonne, alors c'était pas très loin, c'est facile. Et alors sur les radiateurs, qui ne marchaient réglementairement qu'à partir du 15 octobre, donc on faisait un temps de chien dans la pièce quand on y entrait, il y avait des piles de manuscrits, des piles de livres, car c'était un lecteur extraordinaire. Et quand on avait la chance d'approcher Gaston Bachelard, d'abord c'était curieux, parce que cet accent bourguignon qui remontait tout le temps, c'était un pecno qui parlait, mais c'est tellement beau de voir ce genre vous parler de l'eau des rêves et de la puissance du feu, et puis il avait cette formule que j'aimais bien. Qu'est-ce que c'est qu'une la flamme d'une bougie? La formule de Bachelard, c'était la suivante. Ben, c'est un sablier à l'envers. C'est-à-dire que le temps est mesuré à l'envers. C'est génial. Mmh. Enfin, non, mais le type était vraiment fantastique. Puis alors, modeste, enfin, répondant à tout le monde avec un courrier fou qui remplissait à la main tous les jours, quoi. Mais tous les poètes lui écrivaient, les peintres étaient à ses pieds. C'est vrai qu'un texte de Bachelard, c'était absolument admirable, quoi.
Et c'est la seule fois que vous l'ayez rencontré, le jour de la photo?
Ah, bah, oui, bien sûr, mais j'ai eu la chance de faire ça. J'ai rencontré aussi, mais c'était pas un peintre, c'était un chef d'orchestre qui s'appelait Ernest Ansermet. Ernest Ansermet, c'est l'homme qui a créé tout, à peu près tout Stravinsky, qui a joué tout Debussy à peu près. Et puis qui a fait cette chose bizarre, l'histoire du soldat, Ramu Stravinsky, en 1915, 14, 16, je sais plus quoi, en Suisse, bon, belle époque, et puis les décors et les costumes étaient de René Aubergenois. Alors, quand je l'ai vu, j'avais les souvenirs de photos d'un homme avec une barbe en 1915, 16, 17, drôle, et puis jeune et actif, et je tombe sur un personnage, j'étais pas sûr que ça soit lui, je lui ai dit, bonjour, monsieur Ansermet. Bonjour, il a accepté que je l'appelle Ansermet. je l'avais jamais vu, hein. C'était devenu une espèce de tête de, comment on va dire ça? Une tête de moine tibétain, vous savez, mais ravagé par l'âge, plein de cicatrices comme s'il avait pleuré pendant des siècles, extraordinaire. Et c'était le méditatif total. Voilà ce qu'il était devenu en Sermet. C'était un homme fantastique. On prend des photos, on en a fait tout le monde, bien sûr. Mmh. Tout ce qu'on a pu apporter.
Et alors, il y a aussi certaines photos, peut-être plus particulièrement que d'autres, évidemment, parce que ça se passe avec des gens que vous connaissez de plus près, qui témoignent de la proximité et de l'échange. Je parle des photos, bien sûr, toutes les photos que vous avez faites d'Yves Klein.
Ah bah oui, ça c'était la chance que... Bah disons que c'était la génération, ma génération, donc on avait une espèce de communication assez facile, assez directe, quoi. Alors Yves Klein, bah c'est vrai que c'est compliqué. Il y a eu une exposition, il n'y a pas très longtemps, en 2000, je crois, à Nice et un peu partout, qui montrait un ensemble d'œuvres de Klein. Alors, il y avait une préface qui m'a bien intrigué, parce que Klein, j'ai toujours pensé que c'était un artiste. C'est vrai qu'il a fait les monochromes, c'est vrai qu'il a fait cette grande décoration d'éponge dans le théâtre de Gelsenkirchen en Allemagne, c'est vrai qu'il a inventé les pinceaux vivants, ces filles nues qui trempaient dans le bleu et qui faisaient courir sur des grands feuilles de papier, c'est vrai qu'il a fait les zones de sensibilité picturale immatérielle, c'est vrai qu'il a fait des tonnes de choses, créateur donc, fabricant des œuvres. Et l'article disait qu'il était beaucoup plus un homme de la métaphysique, et c'était pas faux, parce qu'au fond, Yves Klein, pourquoi il a pris ce bleu, pourquoi il a choisi le bleu, le rose et l'or. L'autre jour, j'étais à Colmar, et j'ai revu le grand Grunewald, le tableau merveilleux, et les résurrections du Christ, c'est un des panneaux de ce tableau, et c'est autour de la tête du Christ en résurrection, il y a l'or, le bleu et le rose. Je ne sais pas si Klein le savait, mais c'est Yves qui était allé directement vers les couleurs de la métaphysique. C'est vrai qu'il s'est attaché beaucoup à fréquenter les Rose-Croix, hein, les idées des Rose-Croix. C'est vrai que il a été fait, ça vraiment fallait l'inventer, chevalier de Saint-Sébastien.
Oui, hein, il y avait les chevaliers à son mariage, c'est
ben
ça?
Ben oui, bien sûr, c'était superbe. Mais on comprenait pas bien qu'est-ce que ça fout. Moi, j'étais un peintre, Yves Klein, pour moi. Qui avait travaillé avec le feu, qui avait travaillé avec le bleu, qui avait travaillé avec les couleurs. C'était un peintre qu'on voyait dans les galeries. Et tout d'un coup, ça devenait quelque chose d'autre. C'est, je crois que c'est à la fois vrai et faux. Parce que quand l'image de Klein qui est la plus connue, c'est Klein à Fontenay-Rose, pas loin du garage où nous sommes, s'envole dans les airs en planant. Bon, c'est une photo qui a été, il s'est pas envolé, bien sûr. Il aurait dû s'envoler. Mais enfin, en bas, il y avait des gens pour tendre une bâche. Heureusement, il est pas mort. C'est une chance. C'est ça. Donc, c'était l'idée que l'artiste était quelqu'un qui se détachait du sol et qui s'envolait. Et quand il m'a convié au bord de la Seine à voir la session d'une zone de sensibilité picturale immatérielle, j'ai vu arriver un couple d'Américains qui venait de Hollywood, monsieur et madame Blankfort, et puis la séance a commencé. Alors, monsieur et madame Blankfort avaient apporté une petite boîte dans laquelle il y avait, je crois, 16 lingots d'or, petits lingots de 10 grammes chacun. Bon, c'était pas très lourd, donc. À côté, il y avait un officiel, en l'occurrence, c'était conservateur du musée des arts décoratifs, François Mattet. Et puis, autour, derrière tout ça, il y avait les amis, les copains, les gens qui venaient voir par curiosité. Et Yves Klein, alors, a commencé par compter les lingots. Bon. Ensuite, il a sorti son carnet à souche. Et sur le carnet à souche, qui est comme un carnet de chèque, il y avait écrit « Bon pour une zone de sensibilité picturale immatérielle en échange de 160 grammes d'or ou 150, je ne sais plus quoi ». Enfin, il y avait une formule comme ça. Et c'était le chèque numéro 4, 5, je ne sais plus, 3, enfin, il était numéroté. Il fallait donc que avant que les opérations ne commencent, que le représentant des musées nationaux, en l'occurrence François Mattet, contresigne qu'il avait bien vu l'or, qu'il avait bien constaté la présence du chèque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ensuite, il y avait en bas de ce chéquier, il y avait écrit « Tout transgresseur s'expose à la destruction de sa sensibilité ». Non, fallait pas rigoler. C'était absolument dangereux, on pouvait perdre sa sensibilité. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Klein prenait la moitié des lingots d'or et les flanquait dans la Seine. Et alors ça, c'était un spectacle assez drôle, quoi. Il y avait deux clochards qui surveillaient ça, qui étaient un peu inquiets, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont des fous, quoi. Ils ne savaient pas que c'était de l'or, en plus. Et puis ensuite, il fallait pas que le collectionneur qui avait fourni les lingots garde le chèque et puisse se faire encadrer, parce qu'autrement, ça aurait été matériel.
C'est matériel.
Et ça aurait pas été spirituel. Et à ce moment-là, la sensibilité picturale immatérielle d'Yves Klein ne serait pas entrée dans la tête de Monsieur Blanquefort. Donc, il fallait absolument que Monsieur Blanquefort se débarrasse de son chèque. Et à ce moment-là, il fallait brûler le chèque. Alors, on a brûlé le chèque, les cendres sont tombées sur les quais de la Seine, et c'était fini. Mais j'avais vu deux clochards appelés par un petit signe de François Mattet, qui, lui, avait reçu deux lingots d'or, et qui se disait, qu'est-ce que je peux bien faire de ça? Moi, fonctionnaire de l'État, je me fais acheter avec deux lingots d'or par un artiste, c'est très inquiétant. Et il refile les lingots d'or, deux lingots d'or, 10 grammes, c'était pas grand-chose, au clochard, qui détale évidemment le plus vite possible, parce que, qu'est-ce que je fais avec des lingots d'or? Et il disparaît dans la nature. Moi, je raconte ça dans mon journal, et Klein est absolument furieux, il me dit, mais tu te rends pas compte, ça peut détruire la sensibilité de Monsieur Blanquefort, ça a fait tout capoter, c'est épouvantable. Enfin bon, c'était ça. Donc, Yves Klein, artiste, d'accord, mais en même temps, homme qui était passionné d'une chose, c'est-à-dire faire en sorte que l'immatériel entre sur la Terre. Car au fond, la première exposition d'Yves Klein, c'était l'exposition du vide chez Iris Claire, et c'était la présence de rien. Il y avait l'immatériel. Alors, Yves Klein, qui m'en manquait pas une, disait, mais j'ai vu des gens entrer dans la galerie, s'asseoir par terre, parce qu'il n'y avait pas de chaise, évidemment, il n'y avait rien, et se mettre à sangloter tellement il était ému. Moi, j'ai pas vu ça, mais il y croyait, lui, profondément. Il s'est façonné que la notion du vide et l'immatériel, ça pouvait bouleverser les gens.
Alors, par exemple, cette séance sur la session des zones de sensibilité immatérielle, elle a été photographiée. Il reste quelque chose de matériel, moment-là. Ben, alors, vous étiez là. Comment vous étiez-vous à côté de ça? En fait, c'est comme si vous étiez complètement intégré dans l'histoire.
Ben, j'étais un spectateur.
Vous étiez avec votre appareil?
Ben oui, puis Klein m'avait demandé de venir. Hein. J'ai pas volé l'image. Il y avait même un autre photographe, très connu, lui, sérieux, bien équipé, qui s'appelait Shung Kender. Mais il a fait les mêmes photos que moi, pas tout à fait les mêmes, bien sûr. Je me suis jamais aperçu qu'il était là. Il était derrière moi, je sais pas où il était, mais il avait un téléobjectif peut-être, mais il a fait les mêmes photos que moi. Voilà.
Alors on voit toutes ces étapes.
Ah oui, c'est toute une histoire.
Alors vous avez fait des photos en noir et blanc d'ailleurs d'Yves Klein, même lorsqu'il est question du bleu.
Ah bah oui, mais
de l'or, parce que vous aimez particulièrement le noir et blanc, vous, non?
Oh, c'est que la couleur, je trouve que c'est à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque c'était infâme, la couleur. Sauf dans la nuit ou dans le crépuscule, où les couleurs ont peut-être une chance d'être un peu pas fausses. Autrement, la couleur en photographie, à l'époque, c'était technicolor. Rappelez-vous, les premiers films en couleur, c'était épouvantable, quoi. Ça gueulait, c'était horrible. Alors que notre œil a une sensibilité qui va au-delà de ces violences, c'est vrai.
Il y a aussi une photo de Jean Tinguely, il y en a plein de photos de Jean Tinguely.
Oui, il y en a beaucoup, oui.
J'en ai vu une, moi. Oui. Il a l'air de vous montrer, de vous commenter un peu ce qu'il fait. Peut-être il a une main en avant.
Ah oui, c'était une exposition chez Yolas, boulevard Saint-Germain. Mais je l'ai photographié souvent. Je l'ai photographié dans son atelier de l'impasse Ronsin.
Alors lui, vous l'avez photographié au travail, par exemple?
Non.
Non.
Non, c'est pas laissé.
Pas moyen.
J'ai pas proposé, sachant que ce serait pas vrai, quoi. Vous savez, le travail d'un artiste, c'est comme le travail du peintre. D'un sculpteur, c'est comme le travail
oui.
du peintre. On voit rien. C'est tout dans sa tête. Alors, s'il met une tache de couleur, elle va peut-être disparaître, donc ça ne veut rien dire, quoi. Donc, j'ai jamais fait photographie au travail, mais c'était émouvant de le voir dans cette... Ces baraques qui ont disparu, qui étaient à l'impasse Ronsin, il y avait plein d'artistes qu'on connaissait plus ou moins, puis il y avait le grand maître, c'était Constantin Brancusi.
Il y avait
Brancusi qui était là. Alors, Jean Tinguely me fait visiter l'endroit, et me dit, tu vois, c'est là qu'habite Brancusi, tant qu'il est vivant, on est tranquille. mais ils vont jamais oser déloger une loi universelle comme ça, parce que l'hôpital voisin voulait s'agrandir et il voulait raser tout ça pour faire de nouvelles salles d'hôpital. Puis on dit, alors ils sont allés voir le maître Constantin Brancusi, qui les a traités de petits cons, il a foutu à la porte un coup de pied au cul tout de suite, tant qu'ils sont pas revenus. Et là, ils ont eu très peur, parce que ça me fait plaisir. Et puis, Brancusi est mort, et là, il s'est passé un phénomène assez curieux. Deux administrations se sont combattues. Il y avait une qui voulait construire des immeubles pour loger peut-être des gens riches ou des gens pauvres, je ne sais pas. Et puis l'autre qui avait été nommé légataire universel dans le testament de Brancusi et qui était responsable de cette baraque en planche et en vitre et en parpaing, ou même pas des parpaings, je sais pas, en plâtre, tout ça. Il en était responsable. Donc il y avait deux administrations qui se bouffaient le nez. Le musée a créé avec ce qui avait été légué par le sculpteur, et puis d'une part, et d'autre part, les gens qui voulaient construire quelque chose à la place de ça. Comment croyez-vous que ça s'est terminé? Ben, on n'a rien fait du tout. L'hôpital n'a pas voulu, plus voulu construire quelque chose à la place. Le promoteur s'en est emparé, bien sûr, et il reste quoi? Une place qui s'appelle Place Constantin Brancusi. Et toute la poésie de cet endroit s'est envolée. Il n'y a plus rien qui passe. Moi, j'ai vu arriver des bagnoles somptueuses de grands ministres ou de patrons de l'industrie qui venaient là. Alors, il y avait évidemment plein de chiens qui étaient là parce que Tinguely, la femme Tinguely, leur donnait à manger. Il y avait plein de gosses qui jouaient aux billes. C'était très rigolo. Alors, le chauffeur faisait le tour de la voiture pour protéger la bagnole parce qu'il avait peur. Et à la fin, le grossium qui était à l'intérieur de l'atelier de Brancusi se faisait plus ou moins virer, quoi. Parce que Brancusi n'avait pas de temps à perdre, il était très âgé et il avait des choses à faire, quoi. Voilà, les histoires de la Place Constantin, c'était des belles histoires.
Vous avez toujours été séduit, Pierre Descargues, et même réjoui, par le goût de l'excès des artistes. Comme vous en avez suivi beaucoup dans la traversée de leur œuvre, vous avez assisté à des périodes de création successive et vous insistez souvent sur certaines fins de vie. Et pourquoi cet accent particulier sur des œuvres ultimes qui sont toujours des énigmes, dites-vous?
Je crois que c'est passionnant parce que si vous prenez par exemple Matisse, à la fin de sa vie, il sort d'une période où il a fait des odalisques, qui sont des choses intéressantes et de qualité, quoi. Un peu ouverte quand même à une demande un peu grand public, un peu douce. Et tout d'un coup, il se met à prendre des ciseaux et des papiers de couleur et il fait ses découpages. Et alors là, c'est quand même quelque chose de complètement nouveau. Et il est vieux, hein, c'est un vieux monsieur. Et il peut plus bouger, il est dans son lit. Il découpe ses feuilles de couleur lui-même. Et puis pour les poser sur le panneau, il peut plus. Donc quelqu'un qui est obligé de les poser pour lui. Et il indique l'endroit précis. Il est un peu. Ben, c'est comme Renoir à la fin de sa vie où il pouvait plus peindre. Mais ce qu'il a fait à ce moment-là, c'est les tableaux les plus joyeux. Et bien Matisse a été pareil. Il a fait les œuvres les plus joyeuses quand il a fait et les plus dynamiques, et les plus fortes, et les plus formidables qu'il ait jamais faites de toute sa vie quand il s'est mis à découper les papiers. Picasso, la fin de sa vie, je rappelle l'exposition au palais des papes à Avignon, il y avait une centaine de tableaux tout à fait récents de la fin de sa vie, 70, 71, 72 je crois. Mais c'était ébouriffant parce qu'il y avait une espèce de folie érotique, de passion rigolarde. Il y avait c'était bourré de mousquetaires, je sais pas, qui venaient faire là avec des épées, de femmes qui s'envoyaient en l'air. C'était la démence complète, l'espèce. Alors c'était la fin de vie, ça. Alors c'est évidemment ça, j'ai été attentif à cause de ça. Et puis.
Ce sont des audaces, en fait, de fin de vie, des énergies.
Je crois qu'ils sont plus limités par rien. Et je me rappelle le dernier tableau de Pierre Bonnard, homme doux, homme paisible, dont les débuts n'ont pas été si paisibles que ça, puis après, eh bien, il a peint le bonheur dans la forêt, il a peint les promenades au bord du lac, c'était très agréable. Et alors à la fin de sa vie, quand il est vraiment très malade et qu'il commence à avoir de la peine à peindre, il a fait ce tableau qui s'appelle l'amandier, c'est un arbre en fleurs. C'est en 46-47 et il est mort en 47. Hein, il est mort en 47. Et quand on voit ce tableau, on se dit, mais c'est pas vrai, c'est pas peint comme d'habitude, il est pas à l'aise dans sa peinture comme il nous l'a toujours montré. Il y a une espèce de, oh, maladresse, c'est pas le terme. Non, on sent qu'il s'en fout. Il dit que c'est pas important, là.
Il est pas à l'aise. Vous dites, il s'en fout. Pas à l'aise.
Et oui, il est libéré complètement. Et je me rappelle une phrase de lui, que j'avais trouvée, je sais pas où, où il disait, devant un tableau dont il n'était pas satisfait, la couleur y est bien, la lumière n'y est pas encore. C'était ça son travail. Et quand on a vu l'Amandier, en fleurs, dernier tableau de ce vieux monsieur, et la lumière y était.
Tout de suite, elle est venue.
Ah, c'était là. Enfin, non. Non, il a mis 2 ans à la faire. Mmh. C'est très compliqué, la peinture de Bonnard. Mais c'était extraordinaire de voir tout d'un coup que cette lumière qu'il recherchait, qu'il avait recherché toute sa vie, revenait. Et il y avait une sorte de violence dans la touche, comme ça, qui reprenait les violences de ses débuts avant 1995-96. Et cette violence-là, oui. On rappelle un chat, qu'il avait peint à l'époque avec la queue hérissée. C'était une violence terrible. Il me rappelle aussi un lit où un homme et une femme nus se relevaient de ce lit, et l'amour venait d'être fait. C'était d'une cruauté, d'une férocité, d'amour de la vie aussi, hein. Pas méchant, il était pas méchant. Mais c'était pareil, il y avait une sorte de liberté retrouvée. C'est un très très vieux monsieur qui a retrouvé sa liberté d'enfance, ça c'était de jeunesse, c'était extraordinaire.
Et sa lumière, il était conscient de l'avoir retrouvée, là, il le savait.
Je sais pas,
il l'a écrit,
il n'a rien dit. Mais on a trouvé le tableau à la fin de sa vie. Vous savez, à la fin de sa vie, c'est pas incroyable l'histoire de Bonnard. Bonnard, à la fin de sa vie, a toujours vécu dans une petite villa, au Canet, sur la Côte d'Azur, bon, très bien. Et puis il y avait la peinture valait de l'argent, mais pas tellement. Alors quand il envoyait ses tableaux à Paris, comment croyez-vous qu'il faisait? Eh ben, il roulait les toiles, il les enroulait dans du papier journal, et avec une ficelle, et il allait porter à la poste. Et ça arrivait. C'était ça le fait d'innocence. Mais normal, quoi. Les choses étaient dans l'ordre. On se faisait pas rouler. Donc, le vieillage de Bonnard, c'est formidable. Et puis, évidemment, le grand âge de Rembrandt, ça c'est quand on y pense, on est secoué. J'ai revu il y a pas si longtemps, j'étais en Hollande, le tableau qui est, où on peut dire que il a compris que ça se finissait. Il fallait que la peinture lui dise, tu calmes, non, c'est fini. C'est Siméon. Vous savez, l'histoire de Siméon, je ne sais plus très bien la Bible, mais j'ai un peu oublié. L'histoire de Siméon, c'était un homme qui avait eu un signe du Saint-Esprit lui disant qu'avant de mourir, il était très vieux, avant de mourir, vous verrez le Sauveur, tu verras le Sauveur. Bon. Et il va au temple, et on apporte un petit enfant pour la circoncision, mais c'est tous les jours, il y en avait plein de petits enfants pour la circoncision. Et puis sa mère lui confie le petit enfant. Et Siméon, tout d'un coup, prend le petit enfant dans ses bras. Et il a le sentiment que le petit enfant qui a quelques jours, ce sera lui le sauveur. Alors évidemment, il y a la peinture qui dit tout ça. C'est extraordinaire parce que les tableaux de Rembrandt, généralement, c'est chaud. Récemment, il vient de peindre la fiancée juive. Vous voyez, la fiancée juive, c'est de l'or et du rouge, et c'est violent, et c'est beau, et c'est un rythme formidable. Et tout d'un coup, le tableau là, et je crois que c'est pour ça que la peinture lui dit à ce moment-là, tu sais, ça va finir, quoi. Dans ce tableau, tout d'un coup, les couleurs sont d'un blanc qui va du crayeux sale à un peu l'argent. Il y a des bruns, et c'est pas gai, hein. Et puis il y a cet homme qui porte ce petit enfant dans les bras, et c'est tellement bien dit, c'est tellement fortement dit, que on sent que le sauveur, il est dans les bras, le bébé sauveur, qui commence sa vie dangereuse, ce commencement menacé d'une vie, est dans les bras de quelqu'un qui va mourir bientôt, quoi. Alors ces deux conjonctions de fragilité sont bouleversantes, et c'est dit par la peinture.
Encore une fin comme un commencement.
Ah bah oui, mais ces deux fragilités qui sont là, et il restera après le temps à Rembrandt de peindre 2 autoportraits, oui. Car il était vraiment un témoin, hein. Il a peint 2 autoportraits, le premier, il est là, c'était d'abord, la radio nous a appris que dans le premier, il s'était montré avec la palette et le pinceau, et il est là comme ça, comme si quelque chose de drôle venait un peu de lui passer par l'esprit. Alors, il y a un vague sourire sur les lèvres, c'est très peu, et puis ses pinceaux et cette palette à la main. Et puis la radio nous montre que, mais il a effacé le pinceau et la palette. C'est fini. on fera plus de peinture. Il reste un dernier tableau qui est d'une tristesse profonde, où c'est la résignation. Et il a un peu, son visage a grossi, est un peu joufflu comme ça, et il sent que c'est fini. Il le dit. Alors ça, c'est vraiment un témoignage absolument extraordinaire. Un autre témoignage, c'est
mais alors là, par exemple, chez Rembrandt, ce n'est pas, au fond, c'est pas le même feu d'artifice, dirons-nous, que chez Bonnard, par exemple, à la fin, ce dernier autoportrait, c'est pas ça. Là, c'est au contraire là.
Il est conscient que là. Mais si Bonnard nous raconte que l'arbre en fleur, la mendie en fleur, ça va être formidable à venir. La mort pour Rembrandt, c'est la mort, quoi. C'est peut-être aussi bien que la vie, je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'il pensait, puis je veux pas m'en mêler. Mais c'est très bien, c'est quelque chose qui va à son terme. Enfin, c'est comme ça doit être. C'est comme les fleurs doivent être et comme la mort doit venir. C'est pareil. Une autre histoire, c'est Goya, quand je pense que, il a 82 ans, je crois. Chose comme ça, l'année de sa mort, il est à Bordeaux, il est un peu exilé. Enfin, il a pas voulu rester en Espagne parce que le roi l'emmerde tellement qu'il faut qu'il s'en aille. Il est à Bordeaux et il fait venir une jeune fille, c'est la Lavandière qui fait son linge. Et il fait le portrait de cette jeune fille qui est charmante. Mais on sent qu'il n'y croit plus déjà. Hein, parce que la peinture est un peu raide, parce que ce Goya qui a été capable de choses complètement folles, ce Goya qui a fait les tableaux complètement fous de sa maison, la Quinta del Sordo, où il y a tous les monstres du monde qui sont là, ce Goya qui a peint le Dos de Mayo, l'histoire politique de son pays, où on fusille les résistants, enfin bon, ce Goya qui a fait ça, tout d'un coup, ben, il reste plus qu'une jeune fille à peindre, il l'a peint du mieux qu'il peut, mais c'est un peu raide. Et je crois qu'à ce moment-là, il s'est rendu compte que la peinture lui disait, tu sais, faut pas insister. Et il se soumet, quoi. Et c'est ça qui est absolument fantastique, cette histoire.
Mais par exemple, si vous... Là, je reviens à l'art contemporain, mais je crois que de Hans Hartung, vous ne dites pas du tout la même chose. Par exemple, Hartung, c'est peut-être l'inverse, quoi.
Alors, Hartung, c'était un homme d'invention qui était toujours lié un peu aux outils dont il disposait. Un de ses assistants m'a raconté que de temps en temps, il était de bonne humeur, il disait, on prend la voiture, on va à Nice. Alors, prendre la voiture à Nice, c'était pas si simple, parce qu'il avait plus qu'une seule jambe, et que c'était son infirmité qui avait quand même conditionné son œuvre toute sa vie, parce que quand on n'a qu'une seule jambe, on peut pas faire des grands gestes, hein, c'est pas ça. Enfin bon. Et on prenait la voiture, me dit l'assistant, on met la petite voiture de la camionnette, on met la petite voiture de Hans dans la camionnette, et on va à Nice. La première fois qu'ils sont allés ensemble, il est entré chez un marchand de couleurs, tout ça, d'objets, etc. Et il est tombé en arrêt devant des grands balais qui servaient, je sais pas à quoi, des balais énormes, plein des balais de Genet, hein. C'est pas à quoi ça sert dans le pot, je sais pas. Enfin, il était enthousiaste. Il est revenu avec une cargaison de balais, et puis il s'en est servi pour peindre. Comment est-ce qu'on peint avec un balai, quoi? Alors, il avait bien réfléchi, parce que Hans, c'était la précision même, hein. Il s'en sait pas à l'aventure. Il avait bien réfléchi, et le balai, il le trempait un peu dans la couleur, un peu, pas trop, beaucoup, etc. Il fallait bien doser les choses, et après, il jetait le balai sur la toile. Et ça faisait des choses qui l'intéressaient. Et puis, une autre fois, ils sont allés aussi à Nice, chez le marchand de couleurs, et là, ils ont acheté une sulfateuse à vigne. Parce qu'il disait, tu vois, c'est bien, ça crache. Alors, et là, j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça. Il était très musicien, et il est très mélomane, Hans. Et il m'avait dit une fois, un violon, on croit que c'est un son filé. Mais que si tu l'écoutes bien, c'est pas ça qu'il y a, c'est pas filé, c'est des attaques successives. Si l'oreille pouvait défaire un peu la chose.
Un peu comme un ordinateur, au fond, on pouvait
le percevoir. Et là, il me dit, tu comprends, c'est comme ça qu'avec la sulfateuse, je pourrais faire comme le violon. Bon, je comprenais pas grand chose. Et quand j'ai vu les résultats, parce que lui qui pouvait pas bouger, qui était sur sa chaise roulante, se faisait apporter par les assistants, soit des toiles en longueur, soit des toiles en hauteur, soit des carrés, etc. Très grand, auquel il pouvait pas avoir droit, parce que c'était pas possible de faire des gestes, la peinture gestuelle, hein. Et tout d'un coup, il avait la possibilité d'inventer quelque chose de grand, de géant. Alors, on a vu tout d'un coup des grands jets qui partaient comme des jets d'eau. On a vu des taches qui se mettaient à glisser partout. C'est la sulfateuse à vigne. Alors, son assistante, Mademoiselle Marie, m'a dit, est-ce que vous avez, elle était très respectueuse, elle était norvégienne, monsieur Descartes, etc. Bon, Mademoiselle Marie. Alors, elle me dit, est-ce que vous avez vu des figures dans les peintures abstraites de monsieur Artaud? Je dis oui. Très visiblement, avec la sulfateuse, c'est bourré de femmes nues et c'est bourré de crucifix. Ah, elle était contente, je vais lui dire. Elle est allée voir Hans, tu sais, ça se voit que tu as peint des femmes nues et des crucifix. Que tu es un peintre figuratif maintenant. Alors elle, ça ne faisait rien, elle était ravie. Elle dit, mais ça ne me gêne pas du tout que ça soit figuratif. Peintre abstrait, Artaud, mais ça ne veut rien dire. La réalité est toujours tellement présente qu'on ne peut pas s'en échapper. Et c'est comme ça que c'était vraiment un renouveau de son œuvre par un coup. Un peu comme Matisse a trouvé les ciseaux et les papiers découpés. Vous savez, c'était un peu ça, quoi. L'outil qui permet de se changer complètement. Et là, il s'est vraiment changé. Et si on parle des vieillards, comme ça, mais c'est pas inintéressant. Mais il y a une phrase de Jean Bazaine qui a fait un bouquin là-dessus, sur ce sujet, sur l'âge de la peinture, le temps de la peinture. Et il dit que les peintres jeunes sont vieux. Et que la jeunesse, ça se conquiert laborieusement. Et que c'est pas tellement commode de devenir jeune quand on est très vieux. Mais quand on y arrive, c'est assez formidable. C'est ça qui veut dire. Si je parle d'Armand, par exemple, copain de Tinguely, Adnicki, nouveau réaliste, Oresteni, etc. Si je parle d'Armand, on dit c'est les objets. Bon, mais ces objets, alors c'est quelquefois un piano, quelquefois un violon, quelquefois une contrebasse, quelquefois une voiture, quelquefois ça. On sait que ces objets, c'est des objets industriels et que généralement, sauf dans le cas des instruments de musique, ces objets n'ont pas d'âme. Mais quand l'artiste les paume, quand il les écrase, quand il les scie, quand il les brûle, quand il fait quelque chose avec, à ce moment-là, c'est son âme à lui qui donne à ces objets massacrés. Et il y a un truc, moi, Andy Warhol, c'est un homme que je respecte profondément parce que j'ai vu une fois ces séries de grandes sérigraphies concernant la chaise électrique. Alors, Andy Warhol, chez tout le monde, il y a le portrait de Marilyn Monroe, bien sûr, ou bien les bouquets de fleurs comme ça, ou bien quelquefois des billets de $500 agrandis comme ça. Hein. Alors, oh, c'est drôle, il fait les billets de $500. Mais ces billets de $500, il les achetait à la tête des gens. Vous aimez pas la peinture, leur disait-il en faisant ça. Vous aimez l'argent, vous en voulez. Eh bien, alors, en voilà vos billets de $500, ils ont 2 mètres de long. Alors, c'était vraiment une espèce de provocation. Et je crois que le propre des artistes, c'est de demeurer provocateur. C'est ça qui est assez formidable. C'est ce que Tinguely a fait, quoi. Il a provoqué les gens toute sa vie, quoi. Ça, c'est vrai.
C'est le contre-pouvoir des artistes auquel vous croyez en permanence.
Ah oui, si on pense à la fin de la vie de Tinguely, c'était aller à l'exposition à Venise. Il y avait le palais Grassi plein de Tinguely dans tous les coins, c'était très bien. Et puis, dans la petite église à côté, il y avait ce qu'il avait tiré d'un incendie qui avait eu lieu pas loin de sa maison, dans le canton de Fribourg, et une femme qui avait brûlé. À cause de la foudre. Bon, c'est des choses qui arrivent. Toute la récolte, tout le foin avait brûlé. Les bêtes étaient devenues complètement folles. Les taureaux, complètement fous, avaient tué les veaux. Et c'était un massacre et tout avait flambé pendant 3 jours ou 4 jours. Bon. Et Tinguely est allé après avec des semelles d'amiante, c'est que ça se faisait encore, pour marcher dans la chose chaude. Et là, il avait vu tout ce matériel agricole brûlé par les flammes. Et toutes ces cornes de bœufs, tous ces ossements de bœufs qui étaient comme ça partout, incinérés. Et il a fait une exposition, parce qu'il ne voulait pas le manquer, sur la marque des appareils agricoles, il y avait le nom du fabricant. Et ce fabricant, il s'appelait Mengele. Mengele, c'est le nom de ce docteur qui, dans les camps de concentration, faisait des opérations in vivo sur les déportés. Alors, quand on a vu ça dans cette église, à côté du Palazzo Grassi à Venise, San Samuele, je crois, avec des voûtes étroites, avec ces grandes ferrailles qui grinçaient d'une façon terrifiante, c'était plein de chaînes, plein de choses qui hurlaient dans tous les coins, et qui avait le nom de Mengele qui s'imposait, et avec ses crânes de bœufs, avec ses omoplates de grosses bêtes qui étaient là en train de tournoyer. Alors, c'était quoi? C'était aussi grand et aussi beau que tout ce qu'on a pu voir dans la peinture, dans les danses de mort de Holbein, les danses de mort de ces grands artistes du XVIe siècle qui ont montré comment tout le monde est conduit vers l'enfer ou vers le paradis, peu importe. C'était aussi fort, c'était même beaucoup plus fort parce que c'était très présent, quoi.
C'était le dernier travail de Tinguely avant sa mort?
Non, après, il a fait une chose beaucoup plus drôle. Il a fait l'exposition des philosophes. Alors les philosophes, c'était des portraits de philosophes, mais des philosophes en ferraille et animés par des moteurs. Et je me rappelle qu'il y avait un Bergson, Henri Bergson, et c'était une espèce d'objet qui tournait très très vite, comme ça, on ne savait pas ce que c'était. Ça avait la forme d'un ananas. Ça tournait à fond de train, et évidemment, ça donnait envie de rire. Bergson et le rire, bien sûr. Voilà, il a fait donc une exposition d'une vingtaine ou d'une trentaine de philosophes. Eh bien, vous savez, il n'y en a pas un qui soit sur une place publique. C'est quand même la présence d'un grand artiste qui est capable de raconter ce que c'est que la philosophie, et très bien, et on ne veut pas nous les montrer, c'est dans un musée. Alors le musée, il y en a un peu assez.
Ben c'est ça justement, ce que je voulais vous demander, Pierre Descarques, parce que l'art aujourd'hui, l'art contemporain, l'art vivant, hein, comme vous dites, l'art qui est en train de se faire, comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on nous laisse le vivre, en tout cas? Parce que par exemple, tous ces feux d'artifice de fin de vie là, dont vous parlez depuis un petit moment, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis comment est-ce que ça se...
C'est au musée. Alors, les gens des musées sont des gens très respectables et pleins de bonne volonté. Ou bien c'est dans le commerce et c'est à vendre. Alors évidemment, la chose triste, c'est que les gens ne savent pas qu'une galerie, c'est un espace gratuit. Et ils n'osent pas y entrer. Ça, c'est un peu dommage. Il n'y a que les spécialistes qui vont acheter, qui rentrent et qui savent que ça va leur coûter très cher, peut-être. Et puis les musées, ils y vont ou ils n'y vont pas. C'est pas évident. Alors, quand les statues de philosophes de Tinguely seraient dans la rue, ça serait quand même plus drôle. Hein, ça donnerait à réfléchir aux gens. Alors qu'on ne voit rien. Tout est interdit. Et puis dans les musées, je ne vais pas dire du mal des musées, mais quand même, ces éclairages qui sont les mêmes pour Miro et pour Malthus, c'est pas possible d'éclairer une peinture figurative comme celle de Balthus comme on éclaire des Miro, ça va pas, c'est pas possible, quoi. Il y a une espèce de, comme ça, d'incompréhension générale, mais enfin, après tout, c'est pas grave, parce que, vous savez, quelquefois on voit quelqu'un, un petit garçon, ou une petite fille, ou une jeune fille, un jeune garçon, qui entre dans une galerie, puis qui en sort plus, tellement il est content. Et j'ai l'histoire récente d'un chauffeur-livreur qui livrait dans les quartiers de galeries. Et puis que c'était un peu du temps volé au patron, il était content, quoi, voler du troc au patron, c'est bien. Il allait dans la galerie, il n'avait jamais rien vu, il ne savait jamais rien. Il a connu ce qu'il avait vu à Saint-Germain-des-Prés, à la Bastille ou ailleurs, et ça lui donnait envie de peindre. Il s'est mis à faire une œuvre. Ça existe, vous comprenez. Donc, on peut dire n'importe quoi, que c'est bien, que c'est mal, que c'est mal fait, etc. Ça n'a aucune importance. Il y a toujours des gens qui vont venir là où ils ne doivent pas aller, et qui vont se servir de ce qui leur fait du bien, quoi.
Ça, c'est le pouvoir du détournement des choses, alors.
Ah, bien sûr. Non, mais c'est ça la réalité, quoi. C'est ça. Alors, les gens qui se trompent, qui vont dans un musée, ils en sortent bouleversés. Ça arrive aussi. Puis il y a des gens qui sont avec. Vous savez, je me rappelle une séance au Prado où il y avait des gens, des groupes guidés par une dame.
Mais ce que j'allais vous dire, le musée, c'est souvent le voyage organisé, ou l'expo. C'est le voyage organisé,
non, mais souvent. J'ai au bout de mon truc, il y avait des gens qui étaient guidés par une dame, et alors, au lieu de regarder les tableaux que la dame leur commentait, ils enregistraient ce qu'elle disait. Alors, quand même, il faut quand même refaire un peu des choses, que les gens soient tout seuls en face de la peinture, en face de la sculpture, qu'on les pousse pas, qu'on les guide pas, qu'on leur dise pas ceci est bien, ceci est pas bien, qu'on leur dise rien, qu'on leur foute la paix, qu'ils regardent. Et s'ils aiment, s'ils aiment pas, ils passent. S'ils aiment, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est ça qu'il faut faire.
Mais vous croyez qu'il y a une peur de se retrouver seul face à une œuvre, à une peinture ou à une sculpture?
Je crois, oui. Pourquoi pas?
Non, je ne sais pas.
Bien sûr, non, mais ça peut arriver. C'est pour ça que je voudrais qu'il y en ait beaucoup dans les rues. Ça serait mieux parce que quelqu'un qui passe, il dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'il va, au bout d'un certain temps, il se demandera pas ce que ça veut dire. Il se demandera, est-ce que je peux l'aimer? Ça serait pas mal, ça, si au lieu d'avoir une explication, au lieu de chercher la légende, au lieu de voir ce que ça veut dire, il se disait, est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Est-ce que les gens pourraient pas avoir un rapport simple avec, qui est un rapport amoureux, quoi? Alors, on voit des jolies filles dans la rue. Ah, oui, ça fait plaisir. On est content. On dit, tiens, celle-là, peut-être. Pourquoi pas? Je pourrais l'aimer ou pas. Mais ça, c'est pareil, là. C'est la même chose. Alors, c'est des rencontres à travers les siècles. C'est le petit peintre de 20 ans, si on est dans la préhistoire, les peintres des cavernes, c'est pareil. On peut les aimer, c'est tout. Mais pourquoi chercher qu'on vous explique des choses? Mais ces barrières qu'on nous colle entre, vous savez, en plus, il faut dire aussi que la presse, est assez coupable, dans la mesure où elle installe une barrière en disant aux gens « Ceci vaut tant de millions de dollars. » Ah, ils ne regardent plus. Ils voient le chiffre et ils ne voient plus l'œuvre. Ah, ça, c'est quand même ridicule. Bon, ça, c'est dommage. Par exemple, dans l'incendie des deux tours à New York, là, j'ai lu dans aucun journal que il y avait un superbe caldeira qui a été détruit. Bon, il y avait un immense miro qui a été détruit. Mais les journaux ne le disent pas. J'ai vu qu'il y avait un Louise Develson absolument superbe. J'ai vu ça dans aucun journal français. Je ne lis pas tous les journaux français, mais je lis un journal du soir, quotidien du soir, vous voyez ce que je veux dire. Et il n'est pas question de ça.
On n'en a pas parlé.
Et c'est pas question de ça. Alors ça, c'est un peu grave. Qu'on se débarrasse de ces barrières d'argent, qu'on se débarrasse de cette crainte, de cette frilosité quand on parle de l'art, c'est simple. On s'en approche et on tombe amoureux, ou bien on fout le camp, et puis c'est comme ça, quoi.
Parce que vous avez souvent des coups de colère, des coups de gueule comme ça dans vos écrits. Ou quoi. Bah, eh bien oui, contre la façon dont on peut, nous, profiter de l'art, regarder l'art,
bah,
tout simplement.
Bah oui, ça c'est tout.
Est-ce que les officiels, ce que les politiques nous laissent regarder ou pas regarder.
C'est pas commode. J'ai jamais été officiel, Dieu merci, mais c'est pas commode d'être obligé de tenir compte de ce que va dire telle autorité, que dira tel parti politique, qu'est-ce qu'ils vont penser en face, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que l'électeur va penser. Mais ils savent rien. Alors ils sont comme ça portés par des courants, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Ils aiment pas. Puis ils s'en foutent, au fond, c'est leur affaire, c'est pas leur truc. Alors que si quelqu'un d'innocent se promène comme ça et cherche l'amour dans les rues, ben va le trouver, c'est évident. L'amour, l'amitié, peu importe, mais espèce de passion. Et c'est pourquoi, en parlant des vieillards, là, c'était bien de parler de faire apparaître que ils ont la passion, c'est quelque chose qui se conquiert. Alors si les artistes conquièrent la passion, pourquoi pas le passant de la rue? Je crois que c'est possible.
Ces feux d'artifice de fin de vie, c'est ça, c'est la conquête de la passion.
C'est la preuve que tout le monde peut y arriver, alors qu'ils ont plus de force, qu'ils marchent plus, que c'est pas commode, qu'ils respirent mal, que la vie est difficile, et bien ils arrivent à se surpasser et à devenir passionnés. Alors, à nous de prendre la leçon et d'essayer d'être passionnés comme ils le sont, comme ils l'ont été.
Oui, heureusement qu'il y a des gens, justement, comme vous, enthousiastes. Non, enthousiasme,
rien,
mais... ça veut dire quoi, enthousiasme,
mais...
déjà?
Ah, du grec, hein. Ça veut dire, c'est du grec, avoir un dieu, entheos, avoir un dieu à l'intérieur de soi. Eh ben oui, soyez tous habités par les dieux, ça vous fera pas de mal.
À voix nue, Pierre Descargues était au micro de Simone Dweck dans une réalisation de Dominique Costa. Première diffusion sur France Culture, avril 2002.